Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid ce soir à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG demain à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lucroix.
Bonjour à tous, Motors en direct, on est ensemble jusqu'à 14h. Salut Jean Lucroix.
Et salut Louis Amar, bonjour à tous.
À la une, le MotoGP, reprise de la saison ce soir au Qatar. Maverick Viñales sur Yamaha s'élancera en pole position. Quartararo 5e, Johan Zarco 21e. On va y revenir longuement avec nos invités. Le patron du Grand Prix de France, Claude Michi, et l'ancien pilote Christian Sarron. Au programme également la F1, bien sûr, premier Grand Prix dans une semaine en Australie. Entretien exclusif aujourd'hui avec le nouvel homme fort de Renault, l'Australien Daniel Ricciardo. Et puis à 13h45, le rallye, l'endurance et l'IndyCar dans Radio Paddock. C'est parti pour Motors, bienvenue à tous. Deux directs en cours. En ce début d'après-midi, on commence par le foot. La 30e journée de Première Ligue, Liverpool accueille Burnley. Bonjour Timothée Mémon.
Bonjour Louis, bonjour à tous. Et surprise dès les premières minutes de jeu, puisque Burnley mène 1-0 sur la pelouse de Liverpool. Un corner rentrant magnifiquement tiré par le latéral de Burnley. Ça fait donc 1-0 en faveur de Burnley face à Liverpool après seulement 7 minutes de jeu. On le rappelle, Liverpool est à 4 points du leader City et doit à tout prix l'emporter pour rester dans la course au titre.
Le vélo, la première étape de Paris-Nice. Salut Arnaud Souk.
Salut Louis, salut à tous.
Et ben où en est-on ?
Et ben on en est à 88 500 de l'arrivée. En fait, c'est une boucle de 138 500 aujourd'hui autour de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. A priori, une étape promise aux sprinteurs. Il faudra quand même faire attention au vent qui souffle très très fort et peut-être des bordures dans les 30 derniers kilomètres parce que les coureurs vont être très très exposés. Pour l'instant, ils sont trois en tête. Amaël Moinard de l'équipe Arkea Samsic. On a également Damien Godin du team Direct Energy et Romain Combeau de l'équipe Delco La Pomme Marseille. Donc ils ont pour l'instant une minute d'avance, un petit peu plus d'une minute d'avance sur le peloton, donc il reste 88 km à couvrir dans cette étape.
Merci Arnaud, à tout à l'heure. 13h07 dans Motors, tout de suite la moto.
RMC Motors.
190, 150 mètres, droite 120.
Le briefing.
C'était donc les premières qualifs de la saison hier au Qatar. Avant d'accueillir notre invité, Jean-Luc, un mot sur la pole de Maverick Viñales qui a devancé Andrea Dovizioso pour 2 dixièmes et qui s'élancera donc en tête tout à l'heure à 18h.
Écoute, c'est fabuleux parce que le pilote espagnol avait démontré lors des essais officiels, hein, tu t'en souviens, on avait parlé dans Motors la semaine dernière, que c'était lui le plus rapide. Il devançait d'ailleurs Fabio Quartararo, je sais qu'on va y venir évidemment, qui lui se classe cinquième sur cette grille de départ. Le problème du Qatar, c'est la nuit, hein, c'est la nuit et le sable. Dès qu'on sort un tout petit peu de la trajectoire, elle est très poussiéreuse cette piste et donc ça occasionne beaucoup de chutes. Il y en a eu pas mal, notamment pour Jorge Lorenzo et puis certains pilotes très mal à l'aise. Et on va en parler aussi, notamment Valentino Rossi, qui lui partira seulement 14e, alors que son équipier Viñales est en pole position.
Et pour évoquer tout cela, Jean-Luc, on accueille ton premier invité, ancien pilote moto. Il a participé à 139 Grands Prix, dont 93 dans la catégorie Rennes. Bonjour Christian Sarron.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous. Jean-Luc, à toi.
Oui, bonjour Christian, je te remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et puis je vais rappeler ton titre de champion du monde, 250 centimètres cubes bien sûr en 84 et puis tu t'es classé 2 fois troisième du championnat du monde 500 avec des pointures en face de toi, hein. C'était le moins qu'on puisse dire à l'époque, ça faisait vraiment très très mal. Alors on en vient à cette pole de Viñales. La première question que j'ai envie de te poser Christian, toi qui connais bien Yamaha, tu as fait toute ta carrière avec le constructeur japonais, comment se fait-il que Viñales soit à l'aise avec sa moto, il a dit qu'elle était enfin réglée comme il le souhaitait, et que Rossi soit en telle difficulté, il y a une seconde d'écart entre les deux hommes.
Oui, alors Jean-Luc, déjà je voudrais rappeler que les années précédentes, Viñales avait démarré la saison très fort avec au guidon de la Yamaha. Puis ensuite, les choses s'étaient dégradées. Il avait été aussi un petit peu déstabilisé. Là, à nouveau, il a fait de très bons essais hivernaux et il montre la compétitivité de cette moto. Donc, quand même, je voudrais rappeler que beaucoup de gens ont dit qu'elle était, dont Valentino Rossi, bien sûr, et même Maverick Viñales, ont dit qu'elle était dépassée en architecture moteur, en châssis, tout ça. Ça n'a pas changé. On a évolué, évidemment, au niveau du moteur, des performances. Elle a gagné en puissance et en performance, cette Yamaha. Mais on a gagné d'ailleurs chez toutes les marques, hein, en particulier la Honda également, de Marc Marquez et Jorge Lorenzo. Bon, là, elle est dans le coup, tout simplement. Donc, pour ce début de saison et cette ouverture, eh bien, ça semble se passer très bien pour Maverick Vinales. Quant à Valentino Rossi, bon, on sait qu'il est moins motivé. Il a 40 ans, il est moins motivé pour les essais. On l'a vu déjà l'an dernier, quelquefois un petit peu en difficulté pour les essais libres et les essais chronos, peut-être un peu moins de motivation. C'était le cas, par exemple, à Aragon, en Espagne. Et puis en course, c'est un pilote de course, hein, Valentino, ça va toujours mieux. Malgré tout, en partant de la cinquième ligne, ça sera difficile pour lui de briguer le podium, je crois.
On rappelle simplement la grille de départ de ce Grand Prix du Qatar qui aura lieu tout à l'heure à 18h. Vous le suivrez évidemment en direct sur RMC dans l'Intégral Sport. Maverick Vinales donc en pôle. Andrea Dovizioso, Marc Marquez complète la première ligne. Le premier français, c'est Fabio Quartararo, cinquième. On retiendra la 14e place de Valentino Rossi, la 15e de Jorge Lorenzo et la 21e place pour Johann Zarco. Christian Sarron est toujours en direct avec nous dans Motors. Jean-Luc.
Alors oui, on va en arriver tout de suite évidemment à la sensation Fabio Quartararo, deuxième temps de ces séances d'essai officielles, on le rappelle, derrière Vinales, je l'ai dit en ouverture, et cinquième pour son premier Grand Prix dans la catégorie reine. Mais je voulais d'abord te demander, on a vu Vinales insister justement sur cette machine qui est réglée comme il le souhaite. Est-ce qu'on peut imaginer, Christian, est-ce que c'est possible là qu'on ait entendu, qu'on ait écouté en tout cas chez Yamaha les demandes de Vinales qui a gagné lui le seul Grand Prix pour Yamaha l'an dernier, et Rossi n'était pas parvenu à s'imposer. À l'inverse, eh bien, Rossi ne sent pas le train avant, dit-il.
Oui, alors c'est vrai que la fin de saison dernière, Vinales était bien repris, Rossi aussi d'ailleurs. Hein. On rappellera qu'en Malaisie, il a occupé la tête du Grand Prix jusqu'à quelques tours de l'arrivée. Il a malheureusement chuté alors qu'il précédait Marc Marquez, donc il avait une chance de victoire. Mais il n'a pas remporté de victoire l'an passé, Valentino Rossi. Alors il se plaint de la machine. C'était un peu irrégulier, il y avait des circuits. On va dire que le début de l'année, ça allait bien pour Vinales. Et puis ensuite... ça allait un petit peu moins bien pour les deux pilotes. Puis en fin de saison, les deux pilotes se retrouvaient un petit peu. Bon, moi je crois que effectivement, il faut qu'ils arrivent à régler la moto comme elle leur convient. Pour Maverick Vinales, ça va bien. Et si on regarde les rookies, bien sûr, Fabio Quartararo, cinquième, très rapide également durant les essais hivernaux, qui avait fait le deuxième temps justement au Qatar. Eh bien, je pense que la moto va bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Yamaha est une moto facile. J'irai même plus loin, Jean-Luc. Je dirais que la moto GP semble être quand même une catégorie, une moto facile. Ça semble être plus facile de s'adapter quand on voit ce que font les rookies. Hein, par exemple, Bagnaia ou même Morbidelli, Fabio. Quand on voit ce qu'ils font, ça semble plus facile de passer de la moto 2 à la moto GP que passer de la moto 3 à la moto 2. Des motos, d'ailleurs les pilotes sont tous dans le même temps. C'est un peu moins facile par contre pour l'autre français qui était parti de la pole position l'an dernier, Johann Zarco. Il a changé de marque, il est au guidon de la KTM, il a besoin de travailler parce qu'il est quand même assez loin derrière son équipier, mais il ne connaît pas encore suffisamment cette KTM, il a besoin de travailler dessus. Bien sûr. J'espère qu'on va le revoir progresser. Mais pour revenir à Fabio Quartararo, on l'a senti très à l'aise, contrairement à beaucoup d'autres pilotes. Par exemple, Marc Marquez, qui est devant lui en première ligne. Eh bien, Marc Marquez a chuté deux fois sur ses essais. On a vu que dans le premier virage à gauche, le virage numéro 2, quand la température baisse la nuit, les pilotes ont beaucoup de difficultés. Il y a eu beaucoup de chutes à cet endroit. Jorge Lorenzo également. Fabio, lui, n'a pas chuté. Ça va lui donner de la confiance. Et pourquoi pas un premier podium dès ce premier Grand Prix.
Bien sûr. Est-ce que Christian, tu t'attendais à voir Fabio aussi rapide? Bon, on avait évidemment les indications des essais, hein, tu l'as rappelé, mais quand même, dans le cadre d'un Grand Prix officiel, il est entre Jack Miller et Cal Crutchlow, et puis, comme tu dis, il classe la deuxième Yamaha, quand même pas très loin de Vinales, qui est la référence absolue.
Oui, alors maintenant, faire un tour rapide en qualification, évidemment, même s'il en a fait plusieurs, Fabio, plusieurs tours rapides, c'est plus facile que tenir un rythme de course, surtout pour un pilote qui n'a que même pas 20 ans et qui débute dans la catégorie, qui est très jeune. Alors il va manquer les grands prix, il connaît, hein, il avait débuté ici même, enfin au Qatar, il avait débuté, il n'avait pas 16 ans. Il avait une dérogation à l'époque pour débuter avant l'âge normalement minimum réglementaire pour les Grands Prix de 16 ans. Mais il avait d'entrée animé la course devant. Hein, il avait même pris la tête de son premier Grand Prix Moto 3 à un tour de l'arrivée. Ensuite, c'était un peu bousculé. On avait vu déjà son petit manque d'expérience. Alors, dans cette catégorie MotoGP, quelques années après, il va se servir de, effectivement, cette expérience de course. Mais par contre, la MotoGP, il ne connaît pas. Donc, c'est encore un point d'interrogation quant à savoir ce que va pouvoir faire Fabio et les débutants en général, en ce début de saison. Après, ils apprendront et ils progresseront probablement.
Christian, l'opposition majeure là, enfin c'est formidable. D'ailleurs, on a trois marques aux trois premières places hein, sur la grille de départ. Derrière la Yamaha de Vignales, on a la Ducati d'Andrea Dovizioso. Alors on s'attendait à voir les Ducati très rapides de toute façon parce qu'elles disposent d'une puissance phénoménale. On parle de plus de 300 chevaux maintenant pour la Ducati.
Oui, alors Jean-Luc, justement à ce niveau-là, je suis constaté avec surprise et satisfaction qu'au niveau des performances, ça s'était largement resserré. On sait que la marque Honda, qui a toujours eu des motos dans l'historique des Grands Prix, Honda a toujours eu des motos et des moteurs très puissants. L'an dernier, ils se sont rendus compte que le choix moteur qu'ils avaient fait était peut-être un moteur un peu plus facile à exploiter, un peu plus doux, mais manquait de performance par rapport aux Ducati. Ils n'ont pas refait la même erreur. Si vous regardez bien, si vous avez suivi les essais, on a vu que Honda était très très rapide, avait même souvent les meilleures vitesses en bout de ligne droite. Et donc, le moteur sera peut-être un peu plus compliqué à gérer, mais on peut compter sur Marc Marquez pour gérer une moto un petit peu délicate. Les Ducati sont toujours là, bien sûr, et les Yamaha qui ont progressé et qui ont eu de très bonnes vitesses de pointe également. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les Yamaha, celle de Vignales bien sûr, mais celle de, par exemple, Fabio Quartararo, ou celle de Franco Morbidelli, Fabio qui de plus a 500 tours de moins hein, puisqu'il a la même machine mais il aura moins de moteur pour l'année.
Un peu moins de puissance,
j'espère qu'à ce niveau-là on reverra un petit peu les choses si Fabio débute la saison très bien pour lui donner les mêmes chances, mais
Christian, pardon de t'interrompre, mais Marc Marquez, tu parlais de puissance moteur, il a su utiliser, Danilo Petrucci, nouveau pilote officiel Ducati, l'a dit, il a joué au chat et à la souris avec moi, c'est-à-dire que Marquez, en fin limier, a pris l'aspiration de Petrucci pour bénéficier justement de la vitesse de pointe de la Ducati.
Oui, c'est vrai, mais ils sont beaucoup d'autres pilotes à avoir tenté de prendre une roue, une aspiration. Ça se voit dans toutes les catégories, beaucoup en Moto 3, un petit peu également en Moto 2. Et de temps en temps, effectivement, en Moto GP, on a vu également plusieurs fois Valentino Rossi qui essaye de prendre des roues. Bon, il n'a pas réussi à, comme certaines fois l'an passé, à prendre de bonnes roues. Il est donc un petit peu loin aux essais. Mais c'est pas tout. On a vu que la Honda, par exemple, de Jorge Lorenzo, tout seul, avait fait une très bonne vitesse de pointe, si ce n'est la meilleure, à un moment donné des essais. Je crois que c'était la FP3. Donc, elle marche, cette Honda, elle marche. Elle n'a pas besoin forcément de l'aspiration. Je crois que les écarts performance, les écarts moteurs se sont beaucoup resserrés entre les quatre marques. Ducati, Honda, Yamaha et même Suzuki.
Suzuki, c'est vrai.
Les motos ont l'air d'être toutes très performantes et assez similaires en termes de performance. Maintenant, ça va jouer à des petits détails. Bien sûr, les pilotes qui vont savoir être plus forts, plus réguliers, gérer également l'usure un peu des pneus en fin de course. Donc là, pour le moment, avant le départ de ce premier Grand Prix, on se pose beaucoup de questions.
C'est vrai ouvert.
Ça promet un beau suspense et de belles bagarres, j'espère.
Merci beaucoup, Christian Sarron, d'avoir été avec nous.
Merci, Christian.
Et à très bientôt dans Motors. Dans un instant, on continue de parler de moto avec notre second invité, Claude Michi. Mais d'abord, ça a bougé en première ligue. 30e journée du championnat d'Angleterre. Liverpool affronte Burnley, Timothée Mémon.
Avec l'égalisation à l'instant de Liverpool, signé Roberto Firmino sur un bon travail de Mohamed Salah sur le côté droit. Il faut dire qu'ils étaient menés 1-0, un peu sur un coup du du sort, un corner rentrant frappé par Westwood, les joueurs de Liverpool, les voilà là, revenus dans la rencontre, un but partout après 19 minutes de jeu, égalisation de Firmino.
Merci Timothée, 13h20 sur RMC, vous écoutez Motors, Jean-Luc Roy est toujours avec moi évidemment. C'est donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, le premier Grand Prix de la saison de MotoGP, c'est au Qatar, c'est à 18h et pour en parler on accueille notre second invité, Claude Michi, le patron du Grand Prix de France. Bonjour Claude.
Bonjour.
Et merci beaucoup Claude Michi d'être avec nous. Avec vous, on veut surtout parler de la cinquième place sur la grille de Fabio Quartararo. C'est un jeune français qui dispute sa première saison en MotoGP, dont vous avez accompagné l'ascension depuis plusieurs années. Comment avez-vous réagi? Quel a été votre sentiment hier quand vous avez regardé les qualifs et que vous l'avez vu atteindre ce niveau de performance-là?
Écoutez, Fabio est en... d'entrée, que ça soit aux essais à Sepang ou au Qatar sur des essais qui ont eu lieu une dizaine de jours avant, a toujours été de plus en plus performant. Et il a l'air très détendu, souriant. Et donc, il faut savoir que c'est un garçon qui a dominé pendant très longtemps toutes les courses en Espagne, qui est un peu le cœur de la formation des jeunes pilotes, et qu'il est arrivé en Moto 3 il y a 3 ans, je pense. Et qu'on veut le premier Grand Prix du Qatar, et il a même mené la course. Alors la presse s'est emparée de lui, et on a fait une future star avant que ça commence, et la lumière l'a un peu déformé, donc il y a eu un peu de passage à vide pendant 2 années, et aujourd'hui, l'homme a mûri, il a grandi, même s'il est très jeune, 19 ans, et comme je l'ai dit l'autre jour, j'ai fait attention, la lumière revient, donc c'est averti qu'il faut faire attention à pas te perdre. Mais... il a montré des qualités qui ont surpris certainement beaucoup de monde, mais d'un autre côté, pour les gens du milieu, ils sont très conscients des qualités de Fabio.
Jean-Luc.
Oui. Oui, merci Louis. Oui, il a démontré effectivement. Fabio, bonjour d'abord. Merci d'être avec nous. Claude, je sais que tu es dans les sables du Qatar là. J'espère qu'il n'y en aura pas trop sur la piste d'ailleurs.
Non, je suis écoute... installé dans le paddock là tout de suite. Il y a un peu moins de vent qu'hier. Il va faire un petit peu plus chaud, je pense. Parce que hier soir, 16 ouais. degrés à la fin des essais MotoGP, c'était un peu limite en adhérence.
Ah oui, tiens d'ailleurs, allez, je rebondis sur ce que tu dis parce que les pilotes se sont plaints, notamment Jorge Lorenzo qui a été 2 fois à la faute, qui s'est broyé un petit peu de partout. Là, on rappelle qu'il relève de blessure avec son poignet. Les pilotes avaient demandé un départ un peu anticipé. Tu as suivi ça? On ne les a pas suivis finalement au niveau de l'organisation. La Dorna les a écoutés. Oui.
Oui, il y a eu des chutes sur la séance chrono pour être qualifié dans le feu. Je dirais pour les 2 places qui permettaient d'aller dans le dernier run.
Oui.
Ouais. Mais il n'y a pas eu de chute dans les autres, dans l'étape d'après, donc là où les meilleurs se sont exprimés. En réalité, il y a souvent des chutes au même endroit, dans le gauche. Ce virage qui arrive après trois ou quatre virages à droite, donc les pneus sont un petit peu plus froids. Et surtout, faut pas faire d'erreur de trajectoire à 10 cm près parce que le sable,
oui,
le vent, et donc il y a un vrai problème de grippe là.
Ouais, c'est clair. On parlait de Fabio Quartararo, évidemment on ne peut que se réjouir, tu as raison de le souligner, il s'est déjà un petit peu brûlé les ailes à la lumière qu'il a éclairée. Tu as l'impression que, toi qui le connais évidemment très très bien, qu'il a aidé, accompagné, qu'il a mûri, qu'à 19 ans déjà, le fait d'avoir eu ce trou d'air en Moto 3 et la première année en Moto 2 l'a endurci?
Oui, je pense que c'est l'aspect de la jeunesse. Il y a un moment, l'expérience, ça s'apprend. Et donc, il a appris finalement très vite et très jeune. Et aujourd'hui, à 19 ans, il montre qu'il peut jouer avec les meilleurs. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, il a fait des séances d'essai, il n'est pas tombé, il a été très vite. Et il est surtout très détendu. Donc, on va voir. J'espère que rien ne va le perturber pour la course.
Bah oui. Alors, double question et malheureusement c'est déjà la dernière, Claude. La première, est-ce que un Français, Johann Zarco, avait mené pendant 6 tours de mémoire le Grand Prix au Qatar? Est-ce que Fabio Quartararo est capable de le faire? Et la deuxième, Johann, bon, il a du mal avec la KTM, mais ça va venir. C'est un travailleur. Est-ce que tu le vois meilleur en course qu'il ne l'a été aux essais?
Écoute, je pense que ça va être une course assez surprenante, je pense.
Ouais.
Les premières courses de l'année sont toujours très surprenantes. Donc, il y a peut-être une épingle à tirer pour Fabio. L'autre point, c'est que j'ai reparlé avec Johan là, il y a pas longtemps. Je crois que on est dans un monde où tout le monde est pressé, tout le monde veut que ça aille vite, ouais. Les réseaux sociaux et autres. Ça fait 2 ans que KTM est en Grand Prix, c'est la 3e année. Il y a un temps d'apprentissage, hein, dans tous les sports ou dans toutes les activités, c'est pareil. Si tout arrivait d'un coup, ça se saurait. Hein, donc aujourd'hui, oui. Il est conscient qu'il faut travailler. Je pense qu'il y a 2-3 Grands Prix, les Argentine et Austin, qui vont leur permettre de définir peut-être les avancées, les modifications qu'il faudra faire pour aller plus vite, quoi. Hein.
Bien sûr, bien sûr.
Merci beaucoup Claude Michi d'avoir été avec
merci
nous.
Merci Claude.
À bientôt.
Bon Grand Prix là-bas au Qatar, Grand Prix moto. Ça partira à 18h, Maverick Vinales en pôle. Le premier français, c'est Fabio Quartararo. Ça sera à suivre évidemment en direct tout à l'heure à 18h dans l'Intégral Sport. Jean-Luc, tu restes avec nous.
Oui.
Dans un instant, la Formule 1, Lucas Vinoy nous rejoindra et vous entendrez en exclusivité le nouveau pilote Renault, Daniel Ricciardo. À tout de suite.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
13h28 sur RMC, bienvenue si vous nous rejoignez dans Motors, on est ensemble en direct jusqu'à 14h. Deux directs en cours en ce début d'après-midi, à commencer par du foot, ça a de nouveau bougé en première ligue, Timothée Mémont entre Liverpool et Burnley.
Grossière erreur de la défense de Burnley, ça profite à Firmino qui transmet ce ballon à Salah et finalement c'est Sané qui d'une magnifique frappe enroulée, pleine lucarne, donne l'avantage à Liverpool. 28e minute de jeu, 2-1 à présent pour Liverpool qui revient à un point de Manchester City dans la course au titre, 2-1 donc pour Liverpool, but de Sané.
Le vélo Paris-Nice, la première étape, Arnaud Souk.
Et on est à désormais 69 km 400 de l'arrivée dans cette première étape, une boucle de 138 km 500 autour de Saint-Germain. Les trois hommes toujours en tête, Amaël Moinard du team Arkea Samsic, Damien Gaudin du team Direct Energy et donc Romain Combo, le coureur de Delco Marseille Provence. 1 minute et 52 secondes au dernier écart d'avance sur le peloton pour ces trois hommes, un peloton où l'on a vu notamment les groupes Ama FDJ coéquipiers d'Arnaud Démare prendre les choses en main. C'est une course assez nerveuse, même si pour l'instant elle était assez lente. Il y a eu beaucoup de chutes. Le dernier à avoir chuté en date, c'était Michael Matthews, qui pourrait pourquoi pas tout à l'heure jouer sa chance sur un sprint massif. Donc encore 69 km à parcourir.
Merci Arnaud. 13h29 sur RMC, dans un quart d'heure Radio Paddock, toute l'actu des sports mécaniques avec notamment l'endurance et le rallye. Mais d'abord Lucas Vinoy nous a rejoint. Salut Lucas.
Salut Louis, bonjour à tous.
Tu nous rejoins pour parler Formule 1 évidemment.
Exactement.
RMC Motors, le tour de chauffe.
C'est le sourire du paddock, un tueur à la gueule d'ange, l'un des meilleurs pilotes du plateau, Daniel Ricciardo, 7 victoires, 29 podiums et une nouvelle équipe pour la saison qui s'ouvre, Renault, dont il devient le leader. Une semaine avant le premier Grand Prix de la saison, il nous a accordé un entretien exclusif à l'usine d'Enstone en Angleterre. Écoutez, on en parle jusqu'après, c'est au micro de Fred Bonzon.
Daniel, thank you for welcoming us here.
Daniel, merci de nous accueillir ici à Enstone. Pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons vous avez décidé d'être l'acteur de la période des transferts en décidant de quitter Red Bull pour Renault?
La silly season
allait être un petit peu ennuyante. J'ai donc pensé qu'il fallait lancer une petite bombe au milieu de tout ça. Et créer un peu de mouvement, mais non, c'est vrai que les effets et les conséquences de mon choix ont été importantes. Vous savez, je suis passé par plusieurs phases de réflexion et j'ai finalement senti qu'il était temps pour moi de changer d'écurie. Je ne sais pas, j'aime le son de la Renault, j'aime le défi qui est relié. Les années avec Red Bull, nous avons connu le succès, avec Renault d'ailleurs, mais il y a eu aussi des épreuves, donc pour plein de raisons, c'était nécessaire pour moi d'avoir un nouveau challenge, et il commence ici à Enstone.
Quel a été le discours de Cyril Habitbull pour vous inciter à faire partie de ce projet avec un nouveau constructeur?
Pour être honnête, il n'a pas eu besoin de vendre son projet. Il a été très clair avec moi depuis le début, vous savez. Il ne m'a pas montré de trophée en me disant « tu vas avoir ça à Melbourne » ou quelque chose comme ça. Comme je l'ai dit, j'ai vu ce que l'équipe dans un laps de temps réduit a réussi à faire. Et pour moi, c'est extrêmement encourageant. Il m'a montré le plan, ce que l'on va mettre en place pour avancer et progresser ensemble. J'ai été convaincu tout de suite. Donc Cyril n'a pas eu besoin de rendre le projet clinquant et plus glamour qu'il ne l'est. La progression de Renault est un fait et ça a suffi pour me convaincre.
Quels sont les objectifs pour la saison à venir?
Les objectifs. Vous savez, je suis très optimiste quant au fait que l'équipe puisse progresser. Les deux dernières, voire les trois dernières saisons, c'était très impressionnant de voir à quel point Renault est remonté dans la hiérarchie. Et je veux faire partie de la prochaine étape du développement de l'équipe. Je pense que mes objectifs sont de poursuivre sur cette voie, sur cette trajectoire, et j'espère pouvoir apporter quelque chose pour amener l'écurie le plus proche possible des podiums. Mais bon, une position particulière ou un résultat comme ça, je n'ai honnêtement pas ça actuellement en tête. Je veux juste emmener l'équipe jusqu'à la prochaine étape et faire partie de cette belle aventure.
Cyril Abitboul a reconnu dans une interview que vous n'auriez probablement pas entre vos mains une voiture capable de vous mener vers la victoire avant 2020-2021. N'est-ce pas trop frustrant pour un pilote comme vous?
Je pense que chacun des pilotes, et moi y compris, nous voulons gagner demain. Je voulais même gagner hier déjà. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple que cela. Je suis arrivé à un point dans ma carrière où je comprends que même si tu as la meilleure voiture et que tout se déroule parfaitement pour continuer à gagner, le faire tout le temps, c'est tout simplement impossible. Je ne veux pas dire que je suis à un moment clé de ma carrière en Formule 1. Mais l'année dernière, je suis arrivé à un point où j'ai eu besoin de prendre une décision. Pas nécessairement ce qui est le mieux pour aujourd'hui ou pour demain, mais ce qui est le meilleur pour les deux ou trois prochaines années. Ma carrière en Formule 1 commence à durer un petit peu, et l'idée de faire progresser une écurie en Formule 1 est un challenge qui va me permettre de rester motivé, de rester inspiré pour regarder vers l'avenir. Je sais que cela prendra peut-être du temps, mais je pense qu'au final, nous allons obtenir ce que nous voulons, et c'est la raison pour laquelle j'ai signé ici chez Renault.
Dans quelle mesure le challenge Renault est excitant pour vous, celui de faire partie du renouveau d'une écurie comme celle-ci?
Bien sûr, ça l'est. C'est une motivation pour moi. Pour être honnête, voir ce que Lewis a fait depuis qu'il a rejoint Mercedes, forcément, c'est une inspiration. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et si je peux reproduire le même schéma avec Renault et ramener l'écurie devant dans le peloton de tête, faire partie de ce projet, ce serait vraiment cool. Et surtout, tellement gratifiant. Vous savez, aller dans une écurie capable de gagner, c'est la chose la plus facile à faire finalement. C'est certain que cela donne envie, mais prendre une écurie un petit peu plus faible et l'amener tout en haut, c'est vraiment grisant, et c'est ce que je vais essayer de faire.
Pour conclure, Daniel, tout le monde s'accorde à dire que vous avez une voix absolument magnifique, que vous pourriez être chanteur un jour. Pierre Gasly, dans le Super Moscato Show, a déclaré que vous deviez lui chanter une chanson.
Non, il n'en est pas question. Je n'y crois pas, d'ailleurs.
If you're not comfortable, you can do it in French.
Je ne sais pas. It's funny.
C'est marrant, je blague beaucoup et parfois j'essaye de chanter et les gens pensent que je suis capable de le faire tout le temps. Mais je ne suis pas capable de chanter. Enfin si, sous la douche, mais je ne peux pas chanter ou alors pas bien. J'adore la musique. Pierre, écoute, si toi et moi on fait une bonne course, lui avec Red Bull et moi avec Renault, nous prendrons un verre ensemble et je chanterai une chanson. Mais je ne pense pas que ce soit assez bon pour une diffusion à la télé. Je n'ai donc heureusement pas besoin de chanter maintenant.
Le rire de Daniel Ricciardo en exclusivité au micro de Fred Bonzon, c'était à l'usine Denstone en Angleterre. Jean-Luc, c'est un personnage à part quand même dans le paddock, Daniel Ricciardo.
C'est un type extrêmement sympa, comme Lucas le souligne, comme tu l'as dit également. Mais c'est pas seulement ça. Et c'est vrai que quelque part, ça le réduit un petit peu, Daniel Ricciardo. Je voudrais juste rappeler qu'il a quand même 150 départs en Grand Prix, 7 victoires, 3 pole positions et 13 meilleurs tours. Et peut-être l'une des clés, elle est là. On sait que c'est un pilote extrêmement solide en course. C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas effectivement le plus rapide sur un tour. Il a dit aussi quelle gratification ce serait pour lui, quel plaisir ce serait de ramener Renault aux avant-postes. Alors Renault est un solide quatrième au championnat du monde, c'était le cas l'an dernier, et évidemment on va tout faire pour que ça reste le cas, et surtout se rapprocher des trois devants. Qui sait, s'il y a une opportunité en course, moi je pense que Daniel Ricciardo sera là.
Ce qui est formidable avec lui en plus, Jean-Luc, c'est que toujours sur la piste, il fait le spectacle.
obstacle. On l'a vu souvent partir de loin, remonter très fort, même sur des circuits où ça double pas. Souvenez-vous, l'année dernière en Hongrie, il était parti loin et il avait fini quasiment sur le podium. Un Grand Prix de Chine aussi la saison dernière avec des dépassements fantastiques. C'est ça aussi Daniel Ricciardo, Jean-Luc.
Ben absolument, ce qui est génial si tu veux, c'est que c'est un type qui est rapide, c'est un type qui est performant, qui est rugueux, mais pour moi rugueux c'est différent, mais il n'y a jamais de coup tordu. Jusque là, jamais Daniel Ricciardo, et pourtant des dépassements il en a effectué plein, beaucoup plus que d'autres pilotes, il n'a effectué de dépassements limites comme d'autres, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est quelqu'un qui laisse toujours la chance aux autres, c'est quelqu'un qui sait attendre le moment, il est mûr, hein, c'est dans tous les sens du terme, il aura 30 ans le 1er juillet prochain. Moi je pense que c'est un excellent pari de Renault. Alors bon, on le sait, on va pas l'occulter, hein. Renault a cassé la tirelire, Cyril Abitbol a décidé de prendre un pilote de premier plan. Il a sorti Ricardo de chez Red Bull, et je pense que chez Red Bull, et en tout cas c'est tout l'enjeu, on va s'en mordre les doigts, d'avoir laissé partir un type du calibre de Ricardo, jusqu'à ce qu'il ait, comme par hasard, beaucoup de pannes mécaniques l'an dernier. Je vais pas dire que c'est fait exprès, hein, mais je vais dire qu'on a porté toute son attention sur Verstappen. Eh bien c'est ça qui a décidé Ricardo aussi à quitter Red Bull, où il a eu le sentiment qu'on avait moins envie de le garder.
Lucas, c'est vrai qu'on a vu Daniel Ricciardo souvent traîner sa peine l'an dernier, justement, de se voir préférer Max Verstappen dans la hiérarchie de Red Bull. Et il a fait ce pari Renault. Comment tu l'as senti, toi, aux essais à Barcelone, où tu étais il y a une dizaine de jours?
Heureux, plutôt heureux de se lancer dans un nouveau challenge. Daniel Ricciardo, c'est un pilote, on le dit, intelligent, et il avait bien compris que de toute façon, il n'était plus désiré chez Red Bull et que son avenir se situait ailleurs. Alors, il a eu la chance de trouver une porte de sortie. Alors, la chance, c'est un très bon pilote aussi, donc, et il est reconnu dans le paddock. Il était tout simplement heureux. Maintenant, il sait très bien, il est conscient qu'il ne pourra pas gagner en Australie, à Bahreïn, en Chine, ou même après au 4e Grand Prix à Bakou en Azerbaïdjan. Il n'aura pas la monoplace pour le faire, et il se lance presque, il le disait, dans une espèce de deuxième carrière en Formule 1, ou troisième. Il est arrivé, il ne pouvait pas gagner. Ensuite, il a rejoint Red Bull, il était en mesure de remporter des victoires, de monter sur les podiums. Là, il va devoir montrer qu'il est capable de prendre une écurie, comme il le dit, d'un point A pour l'amener à un point B, pour la faire progresser. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile finalement en Formule 1.
Et puis c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans sa carrière, Jean-Luc, de rejoindre une équipe d'usine. Ça aussi, c'est un pas important à franchir quand on veut être champion du monde.
Écoute, c'est un pas important, et là aussi c'est quelque part une récompense pour Renault, parce qu'on a tellement entendu les dirigeants de Red Bull, Christian Horner évidemment en tout premier lieu, j'allais dire cracher sur le moteur Renault qui quand même les a emmenés à 4 titres de champion du monde, hein, il faut le rappeler, il n'y a pas si longtemps, avec Sébastien Vettel, qui leur a permis également de continuer à remporter des grands prix, même si soi-disant ce moteur n'était pas bon. Et là aussi, on en a vu d'autres, hein, cracher sur le moteur, c'était Honda du côté de McLaren, et puis on voit qu'il n'est pas si mauvais que ça, ce moteur Honda. Alors je crois qu'à un moment, tu sais, c'est comme les histoires d'amour, quand elles sont finies, il faut savoir y mettre fin. Et là, ça a été une longue période entre Red Bull et Renault. Ben, je pense que Daniel Ricciardo, au fond de lui-même, doit se dire que ce moteur Renault, il est loin d'être mauvais, il est même très bon, mais il va être encore meilleur grâce à lui, et l'équipe va être encore meilleure grâce à lui. Et si on a besoin de son feedback, parce qu'on a évidemment, avec le bataillon d'ingénieurs, tous les capteurs pour comprendre ce qui se passe dans la machine, ben, ce qui compte, c'est quand même ce que le pilote est capable d'en faire, et je pense que Ricciardo va faire, là aussi, c'est pas méchant pour Nico Hülkenberg, hein, mais un pas en avant, un pas peut-être de géant pour l'équipe Renault.
Et puis, il faut rappeler aussi que Daniel Ricciardo a annoncé son transfert justement au moment où c'était de plus en plus chaud entre Renault et Red Bull, et que ça a été un double camouflet finalement pour Red Bull, Jean-Luc, de voir non seulement Ricciardo refuser la prolongation de contrat qui lui était proposée, mais en plus partir quasiment à l'ennemi, puisque c'est au moment où Christian Horner était le plus virulent contre le manufacturier français.
Ah ben écoute, je crois qu'avec la banane, hein, ce grand sourire qu'on lui connaît, je crois que là, Christian Horner, il l'a mal vécu, ce moment-là. Tout le monde l'a mal vécu, puisqu'effectivement, il a surpris tout le monde. On ne voyait pas un pilote comme Ricciardo, qui gagnait des Grands Prix, donc qui était un potentiel champion du monde. Pourquoi pas quitter une des trois équipes de pointe, puisque, bon, c'était verrouillé chez Mercedes, on l'a bien compris, et évidemment, ça l'était chez Ferrari, même si un temps, on a eu quelques rumeurs, mais ça, tu sais, ce sont les rumeurs de paddock. Non, c'est une très très belle opportunité d'intégrer la quatrième équipe du plateau, une équipe d'usine, une équipe qui se renforce. Hein, on parle de 1200 personnes au total entre Enstone et Viry-Châtillon. Maintenant, Renault a le calibre, en tout cas, pour se hisser, pour faire compléter le carré, je dirais, faire le Fab Four. Et là, je pense qu'on peut commencer à rigoler encore plus fort du côté de chez Ricciardo.
Et le Grand Prix national de Daniel Ricciardo, le Grand Prix d'Australie, lui, le natif de Perth, ça sera la semaine prochaine, évidemment. Les qualifs à 7h samedi en direct sur RMC et le Grand Prix dimanche 6h10 en direct avec la Dream Team. Tu seras là évidemment, Jean-Luc. Luc Avignon sur place à Melbourne et Adrien Tambay avec vous, messieurs. Dans un instant, Motor se poursuit pour Radio Paddock. A tout de suite sur RMC.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
13h44 sur RMC, bienvenue si vous nous rejoignez. Motors en direct jusqu'à 14h. Juste avant Radio Paddock, on fait un tour de nos directs. Et on commence par le foot, la 30e journée de Première Ligue. Liverpool, Burnley, Timothée Maimon.
44e minute de jeu, 2 buts à 1 en faveur de Liverpool face à Burnley. Ils se sont sortis d'un mauvais pas, les Liverpooliens. Et pour cause, ils étaient menés 1-0 après la 6e minute de jeu. Et un corner rentrant signé Westwood, égalisation de Firmino, et le 16e but de Sadio Mané a permis à Liverpool de repasser devant dans des conditions météorologiques pour le moins étonnantes.
Oui, sous la grêle.
En fait, il faisait très beau au début du match, il s'est mis à grêler, il s'est remis à faire beau, beaucoup de vent, et là il y a une pluie énorme à tel point que le ballon roule très mal sur la pelouse. C'est assez étonnant.
Le nord de l'Angleterre, on adore. Le vélo sous le soleil de Paris-Nice pour la première étape, Arnaud Souk.
Non, sous une grosse pluie, là aussi, qui tombe sur la ligne d'arrivée. Il reste à parcourir dans cette première étape autour de Saint-Germain-en-Laye, 58 km 500, toujours trois hommes en tête. Amaël Moinard pour l'équipe Arkéa Samsic, Damien Gaudin du team Direct Energy et Romain Combo de Delco Marseille-Provence. A noté donc une course assez nerveuse qui a vu quelques coureurs partir dans le bas-côté. On a notamment vu un coureur de l'équipe Sky. On vient de voir également l'un des favoris pour le classement général, le Colombien Rigoberto Urán, qui avait terminé deuxième du Tour de France en 2017, partir dans le bas-côté. Bon, il a pas chuté, mais en tout cas, il a été lâché. Il doit cravacher pour revenir. Il y a pas mal de choses, d'événements qui se passent à l'image là de Marc Soler, qui est obligé de changer de vélo en ce moment même. Lui qui est tenant du titre donc sur cette course Paris-Nice. Donc toujours trois hommes en tête, trois Français. Ils ont encore 58 kilomètres à parcourir et possèdent à peu près 2 minutes d'avance.
On continue le tour du monde de la météo et on part en Suède à Östersund où se déroulent les championnats du monde de biathlon. Salut Julien Richard. La poursuite féminine va débuter.
Ne cherchez pas le soleil, il est là, il est en Suède. Ah, le soleil évidemment, avec un tout petit peu de neige quand même. La poursuite féminine qui vient de s'élancer à l'instant. Anastasia Kuzmina, vainqueur du sprint, et une seule Française, et oui, Célia Aymonier, qui a terminé 23e du sprint et qui s'est élancée avec 1 minute et 05 secondes et 5 secondes de retard sur la Slovaque. Vous savez que la poursuite, on prend les écarts du sprint et on s'élance dans cet ordre-là. Une seule Française parce que Anaïs Chevalier et Justine Brezaz, qui étaient trop loin, très très loin, beaucoup trop loin après le sprint, ont déclaré forfait pour se reposer pour la suite de la compétition.
Merci Julien, à tout à l'heure, on suivra cette poursuite tout à l'heure à partir de 14h dans l'intégrale sport avec Christophe Cessieux. Mais d'abord Radio Paddock.
RMC Motors. Radio Paddock.
Lucas Vinois est toujours avec nous. Jean-Luc Roy également, bien entendu. Lucas, on attaque avec le Moto 2, le Moto 3, puisque c'est également la reprise de la saison aujourd'hui au Qatar.
C'est la rentrée des classes pour tout le monde. Alors, je vais vous donner les trois premiers de la grille Moto 2, les trois premiers de la grille Moto 3. Et puis, Jean-Luc va aller de son petit pronostic. On sait qu'il aime bien se mouiller. Mars.
Alors Lucas, en fait tu n'étais pas à l'antenne depuis tout à l'heure, c'est pas grave, nos auditeurs ont dû être surpris par ce petit blanc, mais il va falloir changer de micro, voilà, on s'adapte.
On l'entendait de loin.
C'est le direct, on l'entendait de loin.
Stop.
Voilà, c'est un pit stop, exactement, tu changes de pneu.
Je me mets dedans.
Et on
je
est
me
là,
mets dedans
c'est magnifique.
Pour,
et on reprend pour le début, début. Moto 2, Moto 3.
Je vais reprendre, en effet j'ai parlé dans le vide. Marcel Schroeter, donc Jean-Luc sera en pole position de la grille Moto 2 devant Xavi Vieré et Lorenzo Baldassari. En Moto 3, ce sera Aaron Canet devant Lorenzo Dalla Porta et Kaito Toba. Qui est-ce que tu vois favori donc pour cette première course de Moto 2 et de Moto 3 et surtout pour le titre en fin de saison?
Ah, écoute, ils sont 15 en Moto 2, 15 en moins de 9 dixièmes, tu te rends compte, jusqu'à Nicolo Bulega. Alors, Schroeter, c'est sa première pole. Évidemment, il va falloir confirmer sur ce tracé délicat. On a Rémi Gardner, tiens, un nom qui nous parle aussi, hein, puisque c'est le fils de Wayne Gardner, le champion du monde australien, qui monte en puissance. Il est cinquième. Écoute, il y a des gros bras. Hein. Il y a Thomas Lutti qui est septième. Il y a Sam Lowes qui est sixième. Et puis, tu l'as dit, bien sûr, que Xavi Verger et Baldassari. Oh là, là, c'est un peu la roulette russe. Écoute, en moto 2, allez, je vais miser sur un Baldassari. Tiens, on va dire un Italien.
C'est enregistré, hein. C'est enregistré,
oui, je
Jean-Luc.
Sais bien.
Aujourd'hui, on enregistre Jean-Luc. Attention. Et on ressortira ça en fin de saison.
Ça fait mal. Et en moto 3, tu vas me demander.
Bah oui, écoute, moto 3. Je t'ai donné la grille à Ron Canet devant Lorenzo Dalla Porta et Keito Toba. On sait que c'est toujours une catégorie très difficile à pronostiquer puisque ce sont tous des petits jeunes qui viennent du championnat d'Espagne ou autre et la lutte est à couteau tiré.
Ben écoute, ils ne sont que 12 hein, dans la même seconde, dans les mêmes 9 dixièmes, comme vous voulez. Alors, ben Ron Canet, il est très très bon. Il a démontré l'an dernier, effectivement, qu'il était à la fois rapide et solide. Il a une KTM avec une meute de Honda derrière. Et puis, Christian Sarron l'évoquait tout à l'heure, c'est souvent des bagarres en paquet incroyables. Et le vainqueur sort du chapeau au dernier tour, voire même au dernier virage. Allez, je mets une petite pièce sur Ron Canet, mais vous m'en voudrez pas.
Hein. Il a un peu d'expérience, en effet.
Très bien, pas de blague sur Canet. Hein.
Bah, disons que trop facile.
J'ai failli.
On tire pas sur les ambulances, on a dit. Juste avant le rallye, c'est la mi-temps en première ligue. Timothée Mémont entre Liverpool et Burnley.
2-1 pour Liverpool face à Burnley. Ils étaient menés 1-0 sur un corner rentrant. Égalisation signée Firmino. Le second but est signé Sadio Mané. Liverpool qui revient provisoirement à un point de Manchester City.
Merci Timothée. La seconde période tout à l'heure dans l'intégral sport. Radio Paddock se poursuit, Lucas, avec le rallye. Troisième étape de la saison. C'est au Mexique.
Oui, et puis c'est plutôt bien parti pour Sébastien Ogier qui est en tête devant Elfyn Evans, son ancien coéquipier chez M-Sport, 27 secondes d'avance. Troisième, Ott Tanak, 29 secondes d'avance, un petit peu plus d'écart avec Thierry Neuville qui a 1 minute 15 avant la dernière journée. Pour l'instant, une très belle opération qui se profile pour Sébastien Ogier, Jean-Luc.
Excellente opération, oui, après le faux pas effectivement en Suède, hein, ça peut arriver à tout le monde. Alors là, pour une fois, ils étaient avantagés entre guillemets par la position, évidemment, au moment du départ, puisqu'on sait que ce sont d'autres pilotes, d'autres équipages qui ont balayé la piste devant. Donc pour une fois, la SEB ne va pas s'en plaindre. Alors il y a eu un incident qui aurait pu coûter cher. Paradoxalement, c'est la sortie de piste dans une spéciale de son équipier chez Citroën, SAPK Lapi, dont la voiture est restée coincée un petit peu en travers sur la piste. Alors, deux pilotes sont passés juste derrière sans trop de problèmes. Et puis, au vu de la position de la voiture, on a décidé du côté de la direction de course d'annuler la spéciale, de sortir le drapeau rouge. Alors, ça tombe évidemment très bien pour Ogier et Ingrassia entre-temps, qui avait crevé et qui était au ralenti. Enfin, il roulait aussi vite que possible avec une roue crevée. On a eu une déclaration un peu limite de Chris Meek. Je préfère l'oublier, celle-là, parce que c'est un garçon sympa. Et il est chez Toyota maintenant. Je me demande s'il n'a pas voulu se venger de Citroën en disant que... Voilà, hein, Citroën aurait influencé la direction de course, qui est complètement débile. J'y vais carrément. Donc, Mike, mon conseil, c'est tourner le volant et s'occuper de rien d'autre.
Voilà. Oui, mais ce qu'on peut dire, en tout cas, chez Citroën, c'est que les deux pilotes n'arrivent pas à performer en même temps. Depuis le début de la saison, c'est un coup l'un, un coup l'autre, ce qui est un peu dommageable pour le classement constructeur, même si on sait que ce n'est pas vraiment un objectif pour la marque au chevron.
Tu as raison, enfin ça peut le devenir, hein, parce qu'effectivement Citroën aimerait bien revenir aux avant-postes et c'est vrai que Lapi est quand même un bon second, hein, on va le dire comme ça. Alors c'est pas joué encore, tu disais après la 18e spéciale, effectivement on a pour le moment Ogier avec 27 secondes d'avance sur Elfyn Evans. D'ailleurs c'est l'ancienne équipe, hein, d'Ogier et Ingrassia, c'est l'équipe M-Sport. Je pense que ça lui ferait plaisir aussi quand même quelque part à Ogier de devancer une Ford, et puis surtout ça permettrait à Tanak de n'être que 3e et à Neuville, donc ce sont les vrais adversaires pour le championnat pour Ogier. Donc Tanak 3e avec la Toyota et Neuville 4e avec la Hyundai, ça pourrait faire un bon résultat. Quant à Chris Meek, il est 5e quand même. On va pas l'enlever le talent qu'il a, mais il est à 4 minutes 37.
C'est la saison de la reprise des championnats. On a parlé de la moto, on a parlé de la F1. Il nous faut maintenant parler de l'IndyCar, Lucas.
Bon, c'est un petit peu loin de chez toi puisque c'est en Californie, Jean-Luc, mais en tout cas tu vas suivre ça avec attention. Will Power qui a réalisé la pole position devant Joseph Newgarden et Félix Rosenquist. Par contre, les Français, c'est pas terrible pour ce premier rendez-vous de la saison. 13e Simon Pagenaud et seulement 19e position sur la grille pour Sébastien Bourdais.
Alors c'est le nord de la Floride, hein, Saint-Pétersbourg. C'est le nord, c'est sur le golfe du Mexique, à côté de Tampa. Donc c'est pas si loin. Et d'ailleurs, si tu veux une petite anecdote,
c'est pas si loin à l'échelle des États-Unis.
Voilà. Oui, oui, c'est le nord de la Floride, hein, le Saint-Pétersbourg, et c'est là qu'habite Sébastien Bourdais. Donc, il joue à domicile. Et malheureusement, tu le disais, il s'est très mal qualifié avec son équipe du Delcoin Racing. Il partage d'ailleurs cette équipe avec Santino Ferrucci. Écoute, 19e, c'est pas son habitude. Il a pas réussi à trouver les réglages de la monoplace. C'est un circuit en ville, hein, qui prend une partie de l'aéroport, d'ailleurs, de la piste d'aéroport. Quant à l'autre français, tu en parlais il y a un instant, bah, Simon Pagenaud, avec la Penske, il n'est que 13e. Je pense que ça va être difficile pour les deux Français de dans le top 10, c'est jouable avec une bonne stratégie, mais reprendre Will Power et Joseph Newgarden, qui sont les deux hommes de pointe de l'équipe Penske, ça va être compliqué, surtout que derrière il y a Rosenquist et Scott Dixon. Alors tiens, un petit mot si vous voulez bien sur Rosenquist. Rosenquist, on sait qu'il était il y a pas si longtemps dans d'autres catégories, et il a vraiment beaucoup apprécié le pilotage des voitures d'IndyCar, en disant que ce sont les voitures qui donnent la part belle aux pilotes, qui sont très difficiles à piloter, avec un équilibre à trouver. On dégrade beaucoup les pneus avant, et entre guillemets, ça tient moins bien la route qu'une F1, mais justement c'est beaucoup plus compliqué à mener à la limite, et ils ont l'air de dire, les anciens pilotes de F1, que c'est un vrai plaisir. C'est le cas de Marcus Ericsson également, hein, qui arrive aussi, qui est 18e sur la grille, et Marcus s'est livré une analyse assez pointue de la comparaison du pilotage d'une place de F1 et d'une monoplace d'IndyCar.
18e sur la grille, Marcus Ericsson.
Eh ben, on change pas les bonnes habitudes.
C'est,
hein,
c'est le grand ami de Louis, il faut le dire.
Non, t'es dur,
ça
t'es
va.
Dur.
Ça va, je me suis privé. Ça fait 3 mois que je me prive d'Ericsson. Là, vous me le resservez sur un plateau, je peux pas m'en.
Est-ce qu'il ne dit pas cela aussi parce que, bon, c'est vrai qu'en tout cas, Rosenquist, il a pas forcément eu beaucoup de succès dans les catégories par lesquelles il est passé. Bon, Marcus Ericsson a fait 4 ou 5 saisons même, je crois, en Formule 1, sans grand succès, il faut le dire.
Il est dur, mais oui, mais bon. Disons que Marcus Ericsson, c'est
un. Je tiens à le dire.
Pardon?
Louis est il là. Quand il aborde Marcus Ericsson, il a toujours la banane.
C'est ça. Il a la banane. Plus que Ricardo, non, quand même pas.
Non, ça c'est impossible.
Ça c'est impossible. Ouais.
Alors, tiens, vous voulez une bonne nouvelle, messieurs, c'est que Robert Wickens, vous savez qu'il y a eu un crash terrible à Pocono en août dernier, eh bien, il est revenu dans le stand du Schmidt-Peterson Motorsport, qui est représenté là par James Hinchcliffe et par Marcus Ericsson, justement, et il espère repiloter une monoplace un jour, ce qui est carrément fabuleux. Donc ça fait 7-8 mois maintenant qu'il se bat. On sait qu'il était touché à la colonne vertébrale, hein, donc à un moment il a été paralysé des 4 membres, il a regagné les membres du haut, et il travaille pour remarcher et piloter une monoplace un jour, et ça fait plaisir de le voir dans les stands. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Luc. Ainsi s'achève Motors. À la semaine prochaine, évidemment.
À la semaine prochaine.
Et on t'entendra tout le week-end sur RMC.
Mais oui.
Jean-Luc, tu commences déjà
avec Lucas et avec Adrien.
Absolument. On rappelle les rendez-vous, hein. Rendez-vous de sport mécanique. D'abord, tout à l'heure, 18h, Grand Prix du Qatar, en direct dans l'Intégral Sport. Samedi prochain, 7h, les qualifs du premier Grand Prix de la saison de Formule 1 en Australie. Le Grand Prix, c'est dimanche à 6h10. Tout ça, évidemment, en direct en intégralité sur RMC. Le direct, en ce début d'après-midi, c'est le biathlon, la poursuite féminine des championnats du monde à Östersund, Julien Richard.
Et Célia Aymonier en difficulté dès le début de la course, puisqu'elle a commis 3 erreurs sur son premier tir dans cette poursuite. Elle est désormais déjà très loin, à la 30e place, à 2 minutes et 10 secondes de la leader, l'allemande Denise Herrmann, dans un vent qui redouble ici avec de la neige qui tombe à Östersund.
La suite de cette poursuite, Julien, c'est dans un instant et dans l'Intégral Sport avec Christophe Cessieux qui est déjà de retour.
Et oui, avec un magnifique programme cet après-midi, l'arrivée de la première étape de Paris-Nice, le biathlon évidemment, les filles et les garçons, le foot anglais, Liverpool-Burnley et 3 matchs de Ligue 1 à partir de 15h, dont un très attrayant Saint-Etienne-Lille, sans oublier le plat de résistance à 16h et cette Irlande-France qui nous fait frissonner de peur et donc à la fois.
RMC Motors avec Motorsport TV.